Hier soir, j'ai tracé à travers l'Ancien Testament un plan bien défini de Dieu visant au salut du monde, un monde qui a été dérouté, qui a été perdu à cause du péché. Je ne veux pas ce soir renouveler tout ce que j'ai dit hier soir, mais seulement pour vous rappeler que Dieu n'a pas laissé l'homme à vaguer sans direction sur la terre. Il n'a pas laissé l'homme à souffrir et à se périr éternellement. Depuis toujours, Dieu a visé un plan pour le salut du monde. L'apôtre Pierre, dans la première lettre de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 18, dit « Vous savez en effet que ce n'est pas par les choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Donc cet agneau, Dieu, Jésus, a été prévu par Dieu, même avant la fondation du monde. Dieu savait ce qui arriverait. Et bien que nous ne puissions pas comprendre exactement comment Dieu, en créant l'homme et en le plaçant sur la terre, et en sachant à l'avance qu'il tomberait dans le péché, il n'est pas à nous à discuter ces choses. Dieu seul sait quel était son dessein et son plan. Mais nous savons que Dieu avait déjà décidé, avant la fondation du monde, que son Fils, Jésus, serait l'agneau sans défaut par lequel nous pourrions être sauvés. Et hier soir, nous avons essayé de montrer que Jésus était en effet celui qui a été prévu par la loi mosaïque, par les prophètes de l'Ancien Testament, qui a été annoncé par Jean-Baptiste, celui qui lui-même a soutenu que sa grande mission était pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset, connu par presque tous ceux qui connaissent la Bible, qui s'appelle parfois le texte d'or de la Bible, résume ce que Jésus est venu faire pour nous sur la terre. Et nous avons essayé aussi de vous faire comprendre de quelle manière les hommes peuvent jouir des bénédictions de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Par la foi, par le repentir et par l'immersion dans l'eau pour la rémission des péchés, afin de recevoir le don du Saint-Esprit que Dieu a promis à tous ceux qui lui obéissent. Mais ceux qui font cela, ceux qui répondent à l'Évangile par cette obéissance, constituent ce que la Bible appelle le peuple de Dieu. C'est la communauté des croyantes, des fidèles. C'est l'Église que Jésus lui-même a fondée. Or, je sais que très souvent, l'on fait la réflexion: ne me parlez pas de l'Église. Parlez-moi de Jésus si vous voulez. Mais ne me parlez pas de l'Église. Je ne veux rien entendre de l'Église. Et dans un sens, je comprends d'où ils viennent, ceux qui font cette réflexion. Parce que ce que l'on voit dans le monde aujourd'hui, qui s'appelle Église, n'est pas du tout l'Église telle que nous le voyons dans la parole de Dieu. C'est une Église qui a été déformée par les traditions et les innovations des hommes à travers les siècles. C'est une Église qui a été quasi réformée dans un essai de revenir sur certains points sur une base plus biblique, mais qui a résulté dans une grande division, dans une fragmentation du christianisme. Ou bien c'est une Église qui trop souvent se conformer aux mœurs du siècle présent et qui est devenu plus comme le monde que comme l'Église que Dieu a voulu, qui a voulu adopter la culture du monde du siècle présent au lieu d'être la contre-culture que Jésus avait voulu que ses disciples soient, le sel de la terre, la lumière du monde. Donc je comprends que ce que l'on voit trop souvent, qui s'appelle l'Église, est ce qui n'attire pas beaucoup d'intérêt pour un grand nombre de personnes. Et pour moi non plus. Si c'était cette Église-là, alors je partage cette idée, je ne veux rien entendre d'une telle Église. Mais quand je vois l'Église telle qu'elle est présentée dans le Nouveau Testament, dans les Écritures saintes, alors je vois ici quelque chose qui est tout à fait autre que l'Église qui est trop souvent présentée au monde à l'heure actuelle. Et cette Église, je dois vous dire, jouissait aussi un grand rôle dans le plan éternel de Dieu. L'Église de Jésus-Christ n'a pas été une après-pensée. Ce n'est pas une chose que Jésus a voulu faire à la dernière minute parce que toute autre chose n'avait réussi. Mais Jésus a voulu établir son Église selon un plan bien défini qui avait été conçu dans l'Esprit de Dieu, même avant la fondation du monde. En Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 8, nous lisons ces paroles de l'apôtre Paul. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, comme une bonne nouvelle, la richesse insondable de Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ, notre Seigneur. Donc, l'Église était aussi dans la pensée de Dieu, dans l'esprit de Dieu, dans les plans de Dieu, de toute éternité. Avant les temps éternels, Dieu avait déjà conçu que l'Église aurait un rôle très important dans le salut du monde. Et c'est pour cela que, lorsque l'on fait la réflexion, ne me parlez pas de l'Église, je conçois qu'on comprend mal l'Église que Jésus a établie, l'Église que nous voyons sur les pages du Nouveau Testament. En réalité, quand Jésus est venu dans le monde, sa mission était de sauver le monde. Mais dans le salut du monde, il a fallu que Jésus, en accomplissant le dessein de son Père, établisse cette Église. Et c'est pour cela que nous lisons en Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13, que Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, a posé à ses apôtres la question « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et les apôtres, qui savaient plus ou moins ce que les gens disaient, répondaient « Eh bien, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, qui était déjà mort en ce moment-là, ou que tu es Élie, ou Jérémie, ou l'un des prophètes. » Mais Jésus leur dit alors, « Qui dites-vous que je suis ?» Et c'est alors que Pierre, en prenant la parole pour tous les apôtres sans doute, a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et alors Jésus, à la suite de cette confession, lui a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. » Par les miracles que Jésus avait faits, par ses enseignements, par la vie qu'il avait vécue parmi ses apôtres, ils avaient compris que Jésus était le Fils de Dieu. Et Jésus leur dit alors, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, sur cette confession de vérité, que je suis le Fils de Dieu, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Lorsque nous voyons la promesse de Jésus, nous pouvons comprendre certaines choses au sujet de l'Église que Jésus est venu établir selon le dessein éternel de son Père. Premièrement, Jésus lui-même en est le fondateur. L'Église que Jésus a fondée n'a pas été fondée par un autre, mais par lui seul. Ce n'était pas par Pierre, aussi grand que fut son rôle dans l'apostolat. Ce n'était pas par l'apôtre Paul, qui était aussi un grand apôtre de Jésus. Ce n'était pas par le pape de Rome. Ce n'était pas par Martin Luther. Ce n'était pas par John Wesley. Mais Jésus dit, je bâtirai mon Église. Donc nous devons comprendre que l'Église a une grande importance du fait qu'elle a été fondée par Jésus. Et Jésus dit, je bâtirai mon Église. Il ne parle pas d'Église au pluriel, mais il dit, mon Église, une seule Église. D'ailleurs, lorsque nous lisons le Nouveau Testament, il n'existait qu'une seule Église, un seul corps, le corps de Jésus. Et lorsqu'il dit, je bâtirai mon Église, nous voyons que Jésus accentue qu'il est lui-même le propriétaire de son Église. Il le jouait de tous les droits de propriétaire. Il a tous les droits dans son Église. Les hommes n'en ont aucun. Jésus est le chef de son Église. Et l'Église suit son chef. Elle est fidèle à son chef. Et Jésus, en disant mon Église, montre que c'est lui, non seulement qui a tous les droits, mais que l'Église porte de droit son nom. Elle est à lui, l'Église. Elle ne nous appartient pas. L'Église n'est pas à moi. L'Église n'est pas aux frères qui ont organisé ces conférences. L'Église appartient à Jésus-Christ. Et nous devons chercher dans la parole de Dieu les directives que nous devons suivre pour être fidèles à notre chef. L'Église, c'est le peuple de Dieu. L'apôtre Pierre, dans le deuxième chapitre de sa première épître, dit aux chrétiens, à partir du verset 9, « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son glorieuse, admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Lorsque la Bible parle d'Église, il ne s'agit pas d'un bâtiment physique, matériel. Il ne s'agit pas d'une hiérarchie quelconque. Il ne s'agit pas d'une organisation humaine. Il s'agit d'un peuple. Un peuple racheté. Un peuple qui a été purifié par le sang de Jésus. Un peuple qui est fidèle au Seigneur. Dans le deuxième chapitre de Paul à Tite, il parle justement de ce peuple. Et il leur adresse ces paroles à partir du verset 14 de l'épître à Tite. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Voilà ce qu'est l'Église. C'est un peuple. Un peuple qui a été purifié par le sang de Jésus. Un peuple qui a été racheté par sa mort sur la croix. Un peuple qui appartient à Dieu en particulier. Un peuple qui suit les directives de son maître. Et nous voulons ce soir donc comprendre combien il est important que nous soyons une partie de ce peuple de Dieu, que nous soyons membres de ce corps spirituel qui est l'Église de notre Seigneur Jésus. La Bible appelle l'Église non seulement un peuple, mais aussi le corps de Jésus. En Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 22, l'apôtre Paul dit que Dieu a élevé Jésus-Christ à la hauteur, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de tout nom qui se peut nommer. Et il l'a donné pour être chef suprême à son Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est ainsi que l'apôtre Paul parle de l'Église. Jésus en est le chef, l'Église est son corps, et l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. En Colossiens chapitre 1, verset 18, nous voyons que l'Église, c'est le corps de Jésus. En Éphésiens chapitre 5, verset 24, nous voyons que, comme le mari est le chef de la femme, Jésus est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est aussi le sauveur. Donc, si on veut avoir un lien avec Jésus, il faut que l'on soit dans le corps de Jésus. Jésus est le chef, il est la tête, l'Église est son corps. Il n'y a aucun moyen d'avoir un lien avec Jésus, d'avoir un rapport avec lui, sans être membre de son corps, dont il est la tête, dont il est le chef. La Bible nous dit aussi que l'Église est l'épouse de Jésus. En Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul fait une comparaison entre le lien du mariage et le lien qui existe entre Jésus et son Église. Et nous voyons à partir du verset 25 de ce chapitre 5 d'Éphésiens ces paroles. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifié par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Voyez-vous la comparaison ici entre le mariage entre homme et femme et le mariage entre Jésus et son Église? L'Église est l'épouse, Jésus en est l'époux, et ainsi nous voyons que l'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens chapitre 11 de la deuxième épître, dit « J'ai une jalousie à votre sujet, parce que je vous ai épousé à un seul époux pour que vous soyez une vierge pure pour le Seigneur. » L'Église est l'épouse de Jésus-Christ. L'Église est mariée à Jésus. En Romains chapitre 7, au verset 4, après avoir dit que la femme est mariée à son mari aussi longtemps que le mari est vivant, si le mari meurt, elle est libre de se remarier. Mais si elle se remarie pendant le vivant de son mari, elle est adultère. Alors il dit, vous aussi, vous avez été mis à mort par le corps de Christ, c'est-à-dire par sa crucifixion sur la croix, vous avez été mis à mort afin que vous soyez mariés à un autre, à celui qui a été ressuscité d'entre les morts. Qui sont ceux qui sont mariés à Christ, sinon ceux qui sont membres de son Église? Il n'y a pas moyen d'avoir un rapport avec Jésus, qui est l'époux, sans être une partie de l'Église, qui est son épouse. C'est pour vous dire que nous ne pouvons pas donc divorcer Jésus et l'Église. Nous ne pouvons pas accentuer Jésus comme le sauveur et en même temps négliger ou mettre de côté l'Église. Donc la réflexion, parlez-moi de Jésus, ne me parlez pas de l'Église, est une réflexion qui est tout à fait non biblique, parce que d'après la parole de Dieu, les deux sont inséparables. D'ailleurs, lorsque l'apôtre Paul a soutenu en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, qu'il n'avait aucune intention de connaître quoi que ce soit parmi les Corinthiens, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, qu'il avait certainement parlé de l'Église. Comment est-ce que nous pouvons savoir cela? C'est justement parce que, en parlant de la crucifixion de Jésus, en parlant de Jésus et Jésus crucifié, nous devons absolument parler de son Église. Vous savez, dans le chapitre que nous venons de lire, Éphésiens chapitre 5, verset 25, l'apôtre Paul dit que Jésus s'est donné lui-même pour l'Église. Il s'est donné lui-même pour l'Église. Mais où est-ce qu'il s'est donné si ce n'est sur la croix? Donc, si je prêche la croix de Jésus, je dois aussi accentuer l'Église que Jésus s'est acquise par son sacrifice sur la croix. En Acte chapitre 20, verset 28, l'apôtre Paul disait aux anciens de l'Église d'Éphèse, « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Jésus a racheté l'Église avec son sang. Comment pourrons-nous avoir donc le bénéfice du sang de Jésus sans être une partie de cette Église pour laquelle il s'est donné et qu'il a racheté au prix de son sang? » Donc c'est pour vous dire que lorsque nous parlons de Jésus, lorsque nous parlons du sacrifice de Jésus sur la croix, nous devons aussi comprendre que l'Église joue un grand rôle dans le plan de Dieu. Jésus ne serait pas venu sur la terre pour établir ce qui n'avait pas de valeur. Jésus ne se serait pas donné pour ce qui n'avait pas d'importance. Jésus n'aurait pas donné son sang pour racheter ce qui était sans valeur. Nous comprenons ainsi que lorsque nous parlons de l'Église, la vraie Église de Jésus-Christ, telle qu'elle est mentionnée, telle qu'elle est décrite dans la parole de Dieu, nous devons comprendre que cette Église a une très grande importance dans le dessein éternel de Dieu et dans le salut du monde. Or, on peut se demander, est-ce que cette Église existe dans le monde à l'heure actuelle? Je voudrais partager avec vous un article, je ne sais pas qui l'a écrit, mais elle exprime une grande vérité concernant ce peuple de Dieu qui est son Église, la vraie Église de Jésus-Christ. Pas mal de conquérants ont eu le tort de supposer, du fait qu'ils avaient forcé l'Église de Jésus-Christ d'aller sous terre, qu'ils avaient par là réduit au silence la voix de l'Église et étouffé sa vie. Mais Dieu a toujours eu un peuple. Le torrent d'un fleuve n'est pas diminué quand il doit passer par un cours souterrain. D'ailleurs, son eau est d'autant plus pure lorsqu'elle jaillit claire et limpide au soleil après avoir traversé les roches d'une caverne. Bien sûr, il y a des charlatans qui, comme Simon le magicien, ont voulu procurer, comme sur le marché, à prix d'argent, ce pouvoir qui ne se peut ni acheter ni vendre. Par contre, Dieu a toujours eu un peuple, des hommes et des femmes qu'on ne pouvait pas acheter ou séduire. Oui, dans les temps d'affluence et de prospérité, le message de l'Église a souvent été dangereusement dilué par ceux qui voulaient rendre l'Église socialement attrayante, adroitement organisée ou pécuniairement profitable. Elle a été plaquée d'or, revêtue de pourpre, parée de bijoux. Elle a été mal représentée, ridiculisée, méprisée. Les disciples de Jésus-Christ ont été, selon l'esprit de l'époque, soit élevés comme des saints ou martyrisés comme des hérétiques. Cependant, l'armée des fidèles continue sa marche en avant. Ce sont là les élus de Dieu que l'on ne peut pas détourner de leur chemin, ni par l'argent, ni par la flatterie, ni par les menaces, ni par les persécutions. Leur voix ne sera jamais réduite au silence. Leur lumière ne sera jamais éteinte. À travers tous les âges, elle avance cette Église triomphante de Dieu, toujours vivante et bien portante, malgré les apparences aux yeux du monde. Oui, Dieu a toujours eu un peuple. Et ce peuple existe encore dans le monde à l'heure actuelle. Il est vrai que parfois l'Église a été persécutée. Il est vrai que l'Église a été parfois mal comprise. Il est vrai que ce qui se passe comme Église n'est pas du tout ce qui est enseigné dans la parole de Dieu. Mais l'Église de Dieu existe. Et ce que nous voulons rechercher ce soir, c'est de restaurer l'Église que Jésus a fondée sur la terre. L'Église telle que cette Église a été décrite, dépeinte sur les pages du Nouveau Testament par les écrivains inspirés qui nous ont laissé le modèle dans la parole de Dieu. Oui, nous avons le modèle pour l'Église. Lorsque Moïse, dans l'Ancien Testament, a reçu le plan de Dieu pour construire le tabernacle, Dieu lui a dit, « Tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Et d'après le livre d'Exode, Moïse, qui était un serviteur fidèle dans toute la maison de Dieu, avait tout fait d'après le plan que Dieu lui avait donné. Or, lorsque nous tournons au Nouveau Testament, nous voyons en Hébreu, chapitre 8, à partir du verset 5, que l'Église aussi a été établie selon un modèle que Dieu a donné non pas à Moïse, mais à son fils, qui est plus qu'un serviteur dans la maison de Dieu, il est le fils sur la maison de Dieu. Et nous voyons ainsi dans ce passage que l'apôtre soutient que l'Église doit être aussi fidèle au modèle que Dieu a donné à son fils Jésus. Hébreux chapitre 8, à partir du verset 5. Ainsi que Moïse fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle, regarde, lui dit-il, Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Jésus, qui est venu pour établir l'Église de Dieu, a suivi aussi un modèle. Mais ce modèle nous a été conservé dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous a révélé le modèle. Et il est possible pour nous aujourd'hui, en suivant ce modèle, de restaurer l'Église telle qu'elle existait à l'époque du Nouveau Testament, telle que Dieu l'a voulu, telle que Jésus l'a établie et telle que les apôtres l'ont enseignée. Et c'est ce que nous voulons faire aussi. C'est notre désir, le désir de tous ceux qui aiment la parole de Dieu, de revenir sur le plan que Dieu a laissé pour nous dans sa parole. L'apôtre Paul a dit même à Timothée, à 2 Timothée chapitre 1, versets 13 et 14, « Retiens dans la foi et dans la charité qui sont en Jésus-Christ le modèle de saintes instructions que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt. » Timothée, tu dois rester fidèle au modèle que Dieu a révélé par son Saint-Esprit. Et nous devons aussi respecter le modèle que Dieu nous a donné. Nous ne devons rien changer. Il nous a défendu même d'aller à droite ou à gauche. Il nous a défendu d'y ajouter ou d'en retrancher. Mais nous devons rester fidèles au plan que Dieu nous a tracé dans sa parole. Restaurer l'Église, ça veut dire que nous voulons restaurer l'Église dans tous les domaines. Non seulement dans une partie de ce qui est enseigné dans la parole de Dieu, non pas dans certains points, mais nous devons revenir entièrement au plan que Dieu nous a laissé dans sa parole. En ce qui concerne sa doctrine, ce que l'enseigne, nous devons revenir uniquement à la parole de Dieu, sans rien changer, sans rien modifier dans la doctrine qui est enseignée dans la parole. Nous devons revenir aussi au culte qui est enseigné dans le Nouveau Testament pour son Église. Et nous avons ici un plan à suivre. Nous avons ce qui est nécessaire pour rendre à Dieu le culte qu'il a demandé. Et nous voulons restaurer l'Église dans ce domaine. Nous voulons restaurer l'Église aussi en ce qui concerne sa mission, celle de porter la connaissance de l'Évangile au monde entier. C'est la mission de l'Église. Elle a été fondée pour porter du fruit et pour faire connaître au monde les vertus de celui qui nous a appelés hors des ténèbres à sa glorieuse lumière. Donc nous voulons restaurer l'Église en ce qui concerne sa mission. Nous voulons restaurer l'Église aussi en ce qui concerne la vie à laquelle nous avons été appelés, la sainteté que Dieu a enseignée dans sa parole. Donc sur tous les points, nous voulons retrouver ce qui a été enseigné il y a 2000 ans. Parce que le modèle existe toujours. Est-ce que je peux vous donner un exemple? Je ne sais pas si vous connaissez le jeu du basket. Mais dans le jeu du basket, il y a certaines règles. Il y a un cours, il y a aussi des règles à suivre. Et tout cela a été écrit dans des livres pour que l'on sache comment exactement il faut jouer le basket. À supposer, par exemple, que le jeu du basket tombait en désuétude et qu'on ne jouait plus. Je ne prévois pas ça, vous savez, je pense que ça devient de plus en plus prononcé. Mais à supposer que ça existait et que le basket ne se jouait plus. Et on avait même oublié qu'il y avait un tel jeu. Et un beau jour, on retrouve un livre qui explique exactement comment jouer le basket. Toutes les dimensions du cours sont données. Et toutes les règles sont expliquées. Et on montre exactement comment jouer le basket. Est-ce qu'il serait possible en ce moment-là de restaurer le jeu du basket? Si nous avons le modèle, si nous avons le plan, le livre de règles, certainement. Si nous avons aussi le plan de Dieu, le modèle qui nous a été laissé dans la parole, nous pouvons aussi restaurer l'Église telle que Dieu l'a voulu, telle que Jésus l'a établie et telle que les apôtres l'ont connue à l'époque du Nouveau Testament. Et nous devons rechercher, chers amis, à retrouver cette Église, à restaurer cette Église en suivant le modèle. Un autre exemple. Jésus a dit une fois à ses disciples, après avoir donné une parabole concernant la semence que l'on sème dans le champ, et certaines semences tombent sur le chemin et qui ne poussent pas, d'autres semences tombent dans le chemin épineux, et le chemin épineux ne porte pas du fruit, ou bien le chemin rocheux, et cette semence ne donne pas non plus. Il y a une partie qui tombe dans la bonne terre et elle porte du fruit, 30, 60, 100 pour un. Jésus, en expliquant cette parabole, a dit, la semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole. Voilà la semence du royaume de Dieu, la semence de l'Église de Dieu. Lorsque cette semence, l'Évangile, la parole de Dieu, pure, a été semée dans le cœur des hommes et des femmes du premier siècle, quel en était le résultat? N'était-ce pas des chrétiens qui se formaient en assemblée pour adorer Dieu selon sa parole, pour enseigner la parole de Dieu telle qu'elle a été donnée par le Saint-Esprit, pour porter la connaissance de cet évangile au monde? Voilà l'Église comment elle existait au premier siècle, suivant la semaille de la parole de Dieu dans le cœur des hommes. Or, même si cette Église disparaissait, je ne sais pas, je ne crois pas qu'elle a disparu, mais même si elle disparaissait pendant des siècles, si nous avons toujours la semence, il serait possible de semer cette semence et de produire exactement ce qu'on a produit au temps du Nouveau Testament. Si la semence est toujours la semence vivante et permanente de Dieu, comme soutient l'apôtre Pierre en 1 Pierre chapitre 1, verset 23, la semence incorruptible, la semence permanente, durable de Dieu, si cette semence semée au premier siècle ne faisait que des chrétiens, des églises du Christ à cette époque-là, eh bien la même semence, non frelatée, non mélangée, avec les traditions des hommes, avec des doctrines humaines, mais semer pur, selon qu'elle est enseignée dans la parole de Dieu, si cette semence est semée aujourd'hui, elle produira le même résultat. Il n'y aura que des chrétiens, il n'y aura que le peuple de Dieu qui répondent à l'appel de Dieu en obéissant à sa parole, en devenant tout simplement chrétien et en étant ainsi ajouté par le Seigneur à son église, à lui. Non pas à une église humaine, non pas à une église quelconque, mais à l'église qui a été fondée par Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Ne désirez-vous pas revoir sur la terre aujourd'hui une église qui serait semblable à cette église qui existait au premier siècle? Et nous pouvons retrouver cette église, une communauté de chrétiens qui aiment le Seigneur et qui sont fidèles et qui suivent sincèrement, fidèlement, la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre non seulement la valeur, l'importance de l'Église de Jésus-Christ, mais aussi à vouloir restaurer sur terre aujourd'hui cette Église que Jésus a aimée et pour laquelle il s'est donné lui-même. Que Dieu nous aide et qu'il vous bénisse abondamment. Merci.
Merci beaucoup à M. Timmerman de nous avoir présenté la suite. Je crois qu'on a maintenant un peu plus l'impression de voir entièrement le plan de Dieu qui nous montre qu'on ne peut pas dissocier Jésus-Christ et l'Église, que l'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Mais surtout, et je crois le plus important, c'est que nous, hommes sur cette terre, n'avons strictement rien à dire sur comment doit être l'Église, puisque la parole de Dieu décrit bien comment elle doit être. Je vous rappelle encore une fois, avant de nous quitter, que nous attendons un petit mot de votre part sur le thème ou les questions que vous auriez envie de traiter demain soir. Alors, n'hésitez pas. Et puis, à nouveau, nous vous invitons à rester encore un moment pour boire une boisson ensemble et faire ainsi connaissance. Sinon, merci de votre présence ce soir et nous vous attendons demain soir pour la suite. Merci. Thank you.